I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce podcast, découvrez des parcours, des histoires d'entrepreneurs qui m'inspirent. Ce qui a fait qu'ils ont entrepris, les rencontres qui leur ont permis de franchir un cap dans leur business, leurs réussites mais aussi leurs échecs, vous saurez tout. Depuis 2017, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de tous les horizons. Dans ce 35e épisode, j'ai discuté avec Reynald Nolo, le fondateur et président de Vite Mon Marché. Fils d'agriculteur vendéen, Reynald a fondé Vite Mon Marché en 2018 avec pour mission « Ramener les bons produits de nos campagnes au cœur de votre quotidien ». Le concept est simple, une plateforme où vous commandez des produits locaux, bio, de qualité et vous êtes livré dans la journée. Aujourd'hui, Vite Mon Marché a dépassé les 100 000 commandes sur sa plateforme. C'est aussi plus de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, plus de 250 producteurs et plus de 2500 références présentes sur le site. Dans cet épisode, vous saurez pourquoi et comment Reynald a-t-il créé Vite Mon Marché, comment sont sélectionnés les produits présents sur la plateforme, comment le confinement a-t-il été un accélérateur pour sa société, quelle est l'importance du service client chez Vite Mon Marché ou encore quels sont les objectifs futurs pour Vite Mon Marché. Un grand merci à Reynald pour cet échange. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de me soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. En parlant de Serial Entrepreneur autour de vous, en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google ou encore YouTube. Et puis c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Reynald Nolo, qui est le fondateur et président de Vite Mon Marché. Salut Reynald.
Salut, bonjour à tous.
Alors, Vite Mon Marché, c'est une superbe plateforme qui vend et livre votre marché en direct des producteurs chez vous. Et voilà, c'est un service génial que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Reynald, à chaque fois, à chaque début de podcast, ma question, ça va être quel a été ton parcours avant d'entreprendre et qu'est-ce qui t'a poussé, on va dire, quel a été le déclic vers l'entrepreneuriat ?
Alors, mon parcours, j'ai un parcours très atypique, si tu veux. J'ai commencé donc dans l'hôtellerie. J'ai travaillé pour le groupe Louvre Hôtel, tout ce qui est hôtel Campanile, Kyriade, première classe. Et j'étais commercial pour ces hôtels en Italie. Pourquoi l'Italie ? Parce que en fait, j'avais rencontré lors d'une année Erasmus en Norvège mon épouse actuelle, Laetitia, et donc je l'ai suivie après la Norvège. Je suis allé donc à Florence, en Toscane, et j'ai cherché donc voilà un groupe français en Italie. Et je suis tombé sur le groupe Louvre Hôtel. Donc j'ai commencé dans l'hôtellerie et j'ai fait ça pendant à peu près 11 ans. Tu vois, 11 ans d'hôtellerie. J'ai également fait de la radio chez Radio France en tant que journaliste sportif. Je commentais les matchs du Stade Rennais, tu vois, d'où tu viens. Et donc voilà, donc un parcours totalement atypique. J'ai même fait des études de kinésithérapie, donc vraiment pas du tout dans le domaine. Mais j'ai toujours été, on va dire, passionné par le monde rural. J'ai grandi dans une ferme laitière, puis allaitante de vaches à viande à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Et je voulais reprendre la ferme de mes parents. Mes parents m'ont dit que c'était pas forcément une bonne idée, qu'il valait mieux que j'étudie, que je fasse autre chose, que j'aille gagner de l'argent ailleurs. Mais voilà, ça m'a toujours gardé. Mon père a cette belle expression en disant que la terre colle aux sabots. Et ça, c'est vrai. Et donc, voilà, c'est le monde rural. Je savais qu'un jour ou l'autre, même en faisant de l'hôtellerie, même en commentant des matchs de foot sur Radio France, je savais que j'allais revenir, on va dire, dans le monde rural. Et voilà, j'y suis revenu donc avec Vite Mon Marché.
Ok, super, super intéressant. En 2014, du coup, tu montes ta première boîte qui est World of Arcadian. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier projet ?
Ouais, bah c'est ça. Donc en fait, 2014, j'étais toujours dans l'hôtellerie. J'avais déménagé de l'Italie à Barcelone. Pourquoi Barcelone ? Pour suivre en fait toute l'Europe du Sud. Donc j'allais du Portugal jusqu'en Israël. J'avais une bonne dizaine de pays au sud et j'avais 5-6 avions par semaine. Et donc là, je me suis aperçu que voilà, c'était plus mon truc de voyager autant. J'avais une vie de famille, 3 enfants, et c'est là où je me suis dit bon allez stop, il faut me lancer dans le projet. Et tout simplement, c'était un week-end à Barcelone, en regardant BFM TV et en voyant la révolution agricole et les tracteurs, on va dire dans la rue, où mon épouse, la première, m'a dit écoute, si tu veux te lancer, Rénal, c'est maintenant. Faut y aller. Je pense que ton concept peut être super intéressant, pas forcément ici à Barcelone, mais plus en France. Donc, vas-y, lance-toi, c'est le moment. Donc là, si tu veux, je suis sorti de chez Louvre Hôtel. Je pense que personne n'a compris mon départ. et je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, je faisais des allers-retours de Barcelone jusqu'à Nantes ou Rennes. Pour aller donc dans l'ouest de la France, retourner dans la ferme de mes parents et puis lancer ce projet avec notamment un réseau de producteurs que je connaissais déjà au travers de mes parents. Et c'est comme ça que j'ai lancé la première prière et les premières pierres. Et ensuite, quand on va dire ça commençait à fonctionner plutôt correctement, avec notamment 200 commandes à peu près par semaine, avec mon épouse, on s'est dit bon allez stop. On quitte Barcelone, on enlève les enfants de l'école, mon épouse quitte son travail et on se dit, on met tous les œufs dans le même panier, on fonce à Nantes et puis on y va plein pot, on va dire, justement avec World of Arcadian ou on va dire avec Z-Goat. En fait, si tu veux, j'ai pas vraiment créé de nouvelles entreprises, ce sont des pivots. C'est-à-dire que World of Arcadian, c'était un marketplace pour les producteurs, pour mettre leurs gîtes ruraux, pour mettre leurs activités, mais pour mettre aussi leurs produits locaux. Z-Goat, donc la chèvre Z, que personne n'a compris dans ce nom, était en fait un pivot de World of Arcadian où on ne faisait plus les gîtes et les activités, mais on faisait que les produits locaux. Et puis après, Vite Mon Marché a été un pivot de Z-Goat où on s'est dit, ok, c'est bien ce marché en direct des producteurs, livré à domicile, mais par contre, il faut être capable de livrer beaucoup plus rapidement. Avec Z-Goat, on livrait en 48-72 heures, donc 3 jours. Là, en Vite Mon Marché, on est capable de livrer en quelques heures.
Ok, donc c'est différent. C'est différent.
Ce sont des pivots.
Sociétés, en fait.
C'est
l'évolution d'une même société, d'une même mission, on va dire.
Exactement. Je n'ai jamais créé plusieurs boîtes. C'est-à-dire, j'ai créé qu'une seule boîte. Il n'y a eu qu'une seule passion, qui était cette passion... d'aider le monde rural et de mettre en avant ces super produits locaux et de les livrer à domicile. Ça a toujours été l'idée, ça a toujours été le concept, mais après l'idée a évolué, l'idée a pivoté, mais je n'ai créé qu'une seule entreprise. Et dans le même sens, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Je me suis pas levé un matin en disant je veux être entrepreneur, mais c'est simplement en fait j'ai suivi ma passion. Ma passion m'a amené, on va dire, par l'hôtellerie et par la radio, parce que mes parents n'ont pas forcément souhaité que justement je reprenne la ferme. Mais en suivant cette passion et en gardant cette persévérance de rester dans le monde rural, j'ai lancé, on va dire, cette société et je suis devenu entrepreneur par conséquence. Mais j'ai jamais voulu être entrepreneur. C'est arrivé, on va dire, en suivant cette mission, quoi.
T'as voulu répondre à une problématique qui t'était chère et puis que t'as pu connaître aussi via tes parents potentiellement.
C'est ça. J'ai suivi ma passion. C'est vraiment ce que je dis quand on me demande souvent. c'est parti d'une passion, j'ai suivi cette passion et ça m'a amené là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur.
Ok, donc en 2017, le pivot et le nom actuel de Vite Mon Marché fait surface. Pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Vite Mon Marché, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Ouais, très simple. Vite Mon Marché, comme son nom l'indique, on livre le marché en direct des producteurs et artisans, principalement, on va dire, locaux et régionaux, chez vous. À domicile dans les quelques heures, c'est-à-dire que vous pouvez commander donc jusqu'à 11 heures chaque jour et être livré dès 14 heures le jour même. On fait des livraisons du lundi au samedi de 14h à 21h. Et on a donc des fruits et légumes, on a de la viande, on a du poisson, on a de la crèmerie, on a de la boulangerie, du traiteur, on a même de l'hygiène et beauté. Donc c'est vraiment un marché très 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 complet. Ce qui nous différencie, c'est la rapidité de livraison, le fait d'avoir un marché complet et pas que des fruits et légumes et de l'épicerie. Et également, je pense que le fait que je sois fils d'agriculteur, il n'y a pas énormément de sociétés de food tech et de start-up food tech qui ont un fondateur qui est fils d'agriculteur. Et je pense que ça, c'est une certaine crédibilité, une certaine connaissance du monde rural qui est importante, je pense, aujourd'hui.
Alors, ma deuxième question sur Vite Mon Marché, ça va être comment est-ce que vous sélectionnez, comment est-ce que vous avez sélectionné les producteurs qui sont présents sur la plateforme ?
Au début, si tu veux, ça a été des contacts, comme je te disais. Donc, on a commencé à Nantes, un réseau de producteurs que j'avais, notamment par mes parents. Et puis ensuite, si tu veux, ça a été les producteurs qui nous ont donné le contact de d'autres producteurs, donc du bouche à oreille. Et aujourd'hui, ben, on n'est plus dans la même catégorie, hein. On a un nombre de livraisons assez conséquent, donc forcément, les producteurs aujourd'hui viennent à nous, ils nous contactent à peu près tous les jours. On a un producteur qui souhaite rejoindre notre réseau. Donc là, on a un cahier des charges qui est un peu plus précis, on va dire, qu'au tout début. Et puis on se renseigne aussi sur les producteurs au travers de nos propres producteurs en interne. Et voilà comment on sélectionne, on va dire, nos partenaires. Après, c'est le client, hein, qui est roi et juge, hein. Donc on voit très rapidement les produits, comment ils nous arrivent à l'entrepôt, sous quel conditionnement. On voit donc s'ils sont qualitatifs ou pas de notre côté, mais également après, donc avec les clients. Puis on voit les produits qui partent le plus souvent aussi. Et donc il y a une certaine sélection naturelle qui se fait au fur et à mesure.
Ok, et potentiellement on peut vous proposer sur la plateforme des producteurs ou...
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si vous connaissez des producteurs autour de chez vous, que vous avez vu au marché proche de chez vous et que vous seriez ravi de les voir intégrer Vite Mon Marché, faut pas hésiter à nous les envoyer. Ouais.
Ok, trop cool. Maintenant, j'aimerais voir avec toi un peu les grandes étapes de l'entreprise et puis aussi une question qui va venir justement sur ces grandes étapes. Est-ce que le Covid a été un accélérateur pour Vite Mon Marché ?
Ah ! Ce sont deux sujets effectivement importants. Alors, si on prend donc le deuxième point qui effectivement est une évidence, le confinement, je dirais plus le confinement strict que le Covid ou la Covid. Ce qui s'est passé, c'est que en mars 2020, le 17 mars exactement, lorsque le président Macron a annoncé donc un confinement strict, ça a été la folie. On avait des commandes qui tombaient toutes les 2-3 minutes sur notre smartphone, c'était incroyable. On pensait même qu'on allait exploser, on va dire, en vol. Et là, ça a été toute cette période, on va dire, de confinement strict, mars, avril et mai essentiellement. Ça a été un gros coup de projecteur, c'est-à-dire qu'en fait, ça a accéléré. Les gens donc cherchaient absolument sur Internet une alternative au supermarché. Où est-ce que je peux trouver des produits frais ? Et donc notre nom est ressorti assez souvent. Donc ça a été une énorme accélération. Et donc ça nous a, on est passé à x4, x5 par rapport à avant. Si on faisait 100 livraisons par jour. On en était passé à 500 livraisons par jour, donc c'était assez incroyable. Donc, gros coup de projecteur. On n'a pas explosé en vol. On a eu quelques bugs, on va dire, avec notre plateforme e-commerce. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a, on l'a changé aujourd'hui. Mais en tout cas, on a eu, la qualité de ne pas exploser en vol. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et puis, aujourd'hui, on a forcément des clients qui sont restés. Tout le monde n'est pas resté. Il y a certains clients où c'était vraiment, il fallait les dépanner. C'était pour remplir, on va dire, les frigos. En cas de pénurie, un petit effet de panique, mais on en a quand même gardé beaucoup. Donc, si on était à 100 livraisons par jour en pré-confinement et on est passé à 500 livraisons pendant la folie du confinement, aujourd'hui, on est à 300 livraisons par jour à peu près. Donc, c'est du x3 par rapport à avant. Ouais.
Ok. Et pour revenir aux grandes étapes, justement, outre ce confinement, quelles ont été les grandes étapes, on va dire, depuis 2017 et même, pourquoi pas, parler aussi du pivot avant 2017, justement. Comment est arrivé ce pivot pour Vite Mon Marché?
Moi, je crois beaucoup dans la vie et dans les rencontres. Et on a eu la chance, en 2017, de rencontrer Rob Spiro. Rob Spiro, donc, c'est un Américain qui est arrivé à Nantes, pour des raisons personnelles, sa femme est nantaise et qui a lancé un incubateur, on va dire, Startup Studio Imagination Machine. Et Rob est tout simplement le fondateur de Good Eggs aux États-Unis. Et Good Eggs, c'est la référence du circuit court au monde. Ça a été créé donc par Rob en 2011, mettant en contact le producteur et le consommateur. Donc ça a été une rencontre incroyable. Moi, j'arrivais de Barcelone, j'arrive à Nantes. Rob arrivait de San Francisco et arrive à Nantes. Et donc ça a été une rencontre magique, quoi. Quand j'ai vu Rob, je lui ai dit, écoute, je sais pas si tu crois dans la vie, mais pour moi, cette rencontre n'est pas anodine, et c'est certainement pour faire quelque chose de grand, on va dire, pour le monde rural. Et un des premiers conseils de Rob, qui était plus que crédible, en ayant lancé Good Eggs, c'était de dire, voilà, si je devais refaire Good Eggs aujourd'hui, je le ferais d'une façon différente, avec notamment une livraison beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça que aujourd'hui Rob fait partie de notre board, et donc on a pivoté en se disant, ok, Z-Goat, c'était pas mal, mais on va faire quelque chose de plus rapide en livraison, et c'est pour ça qu'on a lancé Vite Mon Marché. Donc c'est comme ça qu'est arrivé ce premier pivot en 2017-2018.
Ok, très bien. Chez Vite Mon Marché, je vois aussi l'importance du service client. Ouais. Étant moi-même client de Vite Mon Marché, j'ai pu le remarquer. Des petites attentions, du fait de, enfin, potentiellement des appels téléphoniques aussi parfois si un produit était manquant. Enfin,
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est assez fort. Et justement, je voulais savoir comment est-ce que vous gérez cette partie-là du service client au sein de Vite Mon Marché.
C'est la clé. C'est la clé. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a trois choses importantes. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut livrer des produits qualitatifs. Donc, c'est-à-dire que voilà, les gens commandent sur Internet, donc ils n'ont pas la possibilité d'aller au marché, de toucher les produits, de les voir. Nous, on les sélectionne pour eux. Donc, on doit être irréprochable en termes de qualité et de fraîcheur des produits. Ensuite, on doit être irréprochable en termes de quantité. C'est-à-dire que si tu as commandé un kilo de pommes de terre, c'est un kilo, voire un petit peu plus. mais ce n'est pas 800 grammes ou 500 grammes de pommes de terre. Donc avoir la bonne quantité, c'est super important. Et le troisième point, c'est effectivement un service après-vente ou un service client qui soit super réactif. Ça peut arriver un petit retard, même si c'est rare chez nous, on est à 1%, donc c'est très faible. Mais voilà, si on a un peu de retard, même de 5 minutes, on prévient. Peut-être qu'il y a un produit qui a été en rupture exceptionnellement parce que un producteur n'a pas pu nous livrer le matin, donc on prévient le client. Et ça, c'est vraiment très très important, justement, d'avoir cette réactivité. Donc on a mis ça en place depuis avril 2020. Donc vraiment où là le service client avec les 500 livraisons par jour, c'était indispensable d'avoir cette réactivité. Et puis c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a gardé. On a la chance d'avoir un service client qui n'est pas trop débordé, donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la bonne qualité de service. Mais voilà, c'est vraiment très très important. C'est quelqu'un qui a été livreur, qui connaît bien, on va dire, toute l'entreprise à l'intérieur. Et voilà, qui est comme moi, fondateur, extrêmement attaché à ce que le service client se passe bien. C'est une des clés, hein. C'est une des clés. Il y a une étude qui est sortie là-dessus, sur toutes les entreprises food tech qui ont réussi, on va dire, à garder de la clientèle après le confinement. Et un des points majeurs, c'était justement le service client. Parce qu'il y a eu des erreurs pendant le confinement, il y a eu un boom, il y a eu des retards, il y a eu des ruptures. C'était une période assez compliquée et qui a eu un service client réactif et a su garder donc justement les clients fait partie des acteurs justement gagnants aujourd'hui. Donc pour nous, ouais, c'est un point super important, le service client.
Et d'un point de vue logistique, me semble que vous fonctionnez d'une manière assez atypique dans le sens où les produits sont dans le camion en fait et vous allez concevoir la commande dans le camion, si je ne dis pas de bêtises.
Alors oui et non, c'est-à-dire que ça c'était un modèle que l'on avait au tout début, donc justement en pré-confinement, où en fait on avait le camion ambulant, c'est-à-dire que tous les produits étaient effectivement dans le camion, les gens donc passaient commande, le livreur allait dans son camion derrière, il préparait et il livrait. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la période de confinement, on n'avait plus de place dans le camion. En gros, si tu veux, l'offre dans un camion était trop limitée. Il fallait donner beaucoup plus à nos clients. Donc, on est repassé à un modèle où, si tu veux, l'offre était dans l'entrepôt et on prépare en entrepôt. Donc, aujourd'hui, ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que les producteurs viennent nous livrer à notre entrepôt qui est au sud de Nantes ou proche, on va dire, des villes que l'on va développer ou que l'on développe. Dès que les produits arrivent, donc ça c'est tous les matins, hein, les producteurs nous livrent. Dès que les produits arrivent, notre équipe arrivage donc met les produits immédiatement donc en ligne. Vous pouvez commander tout de suite, donc vous pouvez commander des produits, hein, qui sont arrivés dès le matin même. Et ensuite, donc, on prépare les commandes en entrepôt jusqu'à 11h. Et à 11h, les commandes se bloquent. Et ensuite, on met tout dans une machine, on va dire, à optimiser les tournées de producteurs, les tournées pardon de livraison, nous disant voilà, on aura besoin de tant de camions aujourd'hui, de tant de livreurs. Et puis donc, on a une route optimisée qui part de l'entrepôt et le client reçoit un SMS en disant voilà, votre commande est prête, elle est partie de l'entrepôt et vous êtes livré à telle heure. Donc ça, c'est le concept d'aujourd'hui. Après, ce côté camion ambulant, on a pris beaucoup de plaisir à le lancer. Les livreurs aimaient beaucoup aussi livrer et préparer dans le camion. C'est quelque chose que l'on souhaite remettre en place, notamment pour des offres un peu last minute, peut-être par exemple un panier apéro ou un dépannage de dernière minute. Donc avoir quelques camions qui sont dans la ville. Et qui sont prêts, on va dire, à bondir pour donner cette offre un petit peu de dernière minute. Donc, je pense qu'on va le remettre en place aussi.
Ok. Et aujourd'hui, du coup, Vite Mon Marché, combien de salariés, combien de livraisons par semaine, combien de villes et combien de chiffre d'affaires ?
Alors, on va commencer par le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça fait donc 3,5 millions de chiffre d'affaires par an. On a commencé en 2018, on faisait 300 000 euros. En 2019, 1 million. Et donc là, 2020, 3,5 millions. Donc on fait du x3, x4 chaque année. Ça représente 35 employés. Deux tiers des employés sont en logistique, donc arrivage, préparation de commandes et livreur. Et le tiers restant, donc en siège, des full stack développeurs, donc voilà, des développeurs, des personnes en marketing, en communication, en finance, en administration, en category management, c'est-à-dire donc des gens qui s'occupent de l'offre, avec des profils assez hauts. Des gens qui viennent de chez Système U, Monoprix, Carrefour, voilà. Donc même Danone et Amazon. Donc on a des profils vraiment très très intéressants. En termes de livraison, donc comme je te disais, aujourd'hui c'est à peu près 300 livraisons par jour. Ce sont des paniers moyens qui tournent autour de 70 euros. Donc c'est pas mal. On a à peu près 250 producteurs avec nous aujourd'hui, 2500 référents sur le site. Donc ça, c'est quelque chose qui va augmenter. Et puis voilà, je pense que ce sont les principaux chiffres.
Et en termes de zone, justement, où Vite Mon Marché est présent ?
Nantes, Rennes, la côte de Saint-Nazaire, donc de Pornic à Pornichet, et La Roche-sur-Yon.
Ok, très bien. Et dernière question par rapport à Vite Mon Marché. Quels sont les objectifs futurs ? Et quelles sont les prochaines villes potentielles où va se lancer Vite Mon Marché ?
Toulouse en septembre 2021, donc là, cette année, et Bordeaux en janvier 2022. Et avec le succès, on va dire, de ces deux ouvertures de grandes métropoles, après, l'objectif sera d'aller couvrir la France avec les autres métropoles et pourquoi pas, on va dire, débuter certaines villes européennes, notamment en Espagne et en Italie, que je connais très bien, puisque mon épouse est italienne, et l'Espagne, j'ai vécu 11 ans à Barcelone.
Ok, super, de très beaux objectifs. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Ma première question, ça va être: quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie ?
Mon épouse. Clairement, sans elle, je serais pas là aujourd'hui. Donc ça c'est évident. C'est elle qui m'a poussé, on va dire, à sortir de l'hôtellerie pour me lancer, on va dire, dans ce projet. C'est elle qui a décidé pour la famille, on va dire, de tout plaquer à Barcelone et de laisser, on va dire, une belle qualité de vie. Son travail, une belle, on va dire, aussi éducation pour nos enfants avec le côté international et trilingue, pour venir ici donc à Nantes. Donc ça, voilà, c'est je dirais la première personne. La deuxième personne, c'est évidemment mon cofondateur, Nicolas Odevik, qui est un ami norvégien qui a quitté l'entreprise pour des raisons personnelles l'été 2020, donc l'année dernière. Mais bon, voilà, j'oublierai jamais, c'est mon cofondateur et c'est avec lui que j'ai débuté cette aventure. Donc ça, c'est important de le souligner. Et puis, bien entendu, Rob. Je pense que cette rencontre avec Rob est assez incroyable. Assez extraordinaire dans le sens premier de ce mot, et ça, ce sont trois rencontres qui nous permettent d'être ici aujourd'hui.
Ok, et est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui, alors que ce soit dans le monde entrepreneurial ou autre, hein, ça peut être un artiste ou...
Alors, première personne, ce sera, on va dire, mon père et mes parents, mais en tout cas mon père. Il a été entrepreneur à sa façon. Il a créé donc une ferme pédagogique, et c'est cette ferme pédagogique qui m'a permis à moi d'avoir ce virus, on va dire, et cette passion pour la ferme, le fait de voir des citadins, des Parisiens, des Nantais venir dans ma ferme à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Ça a été un vrai déclic pour moi de comprendre qu'il y avait des belles valeurs rurales à promouvoir. Pour moi, ensuite, les deuxièmes personnes, ce sont les agriculteurs en général. Je trouve que ce sont tous des entrepreneurs. Je prends l'exemple de ma famille. On est une vingtaine de cousins. Sur les 20 cousins, qui sont donc principalement, on va dire, agriculteurs, ouvriers, bref, du monde rural, une quinzaine à créer sa propre entreprise et vit de sa propre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est assez incroyable de voir l'entrepreneuriat dans le monde, on va dire, agricole et ouvrier. Et puis après, il y a une personne que j'apprécie bien, mais après, c'est pas non plus forcément un exemple ou un modèle, mais Marc Simoncini. En plus, il a le même nom que mon épouse, Simoncini. Donc, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien sa façon de parler, de communiquer. J'ai l'impression qu'il a pris quand même pas mal de risques aussi.
Ses valeurs aussi.
Ouais, ses valeurs aussi. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. J'ai jamais eu l'occasion de le voir. Il y a eu une visio un jour au travers de nos investisseurs, mais voilà, je le connais pas personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un avec qui je passerai une bonne soirée, je pense.
Carrément. Et dernière question pour cette partie-là, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer justement ?
Suivez votre cœur et suivez votre passion. C'est vraiment, je pense que c'est le meilleur indicateur, c'est le meilleur filtre. Beaucoup de personnes vous diront que votre idée n'est pas forcément bonne, que ça va pas fonctionner, ou que c'est pas vraiment le moment de prendre des risques ou autre. Et de toute façon, la réponse, on l'a que nous, hein. Et c'est suivre son cœur et suivre sa passion. Si ça vous brûle chaque matin et vous vous dites j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais vraiment le tenter, faut le faire, quoi. Faut pas regretter, parce que plus les années vont passer, plus ce sera difficile de se jeter à l'eau. Et voilà, donc il faut le faire le plus vite possible pour pas avoir de regrets, et c'est votre cœur, on va dire, qui vous le dira, et personne d'autre.
Ma dernière question, ça va être quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Écoute, Rob, bien entendu. Je pense que il y a beaucoup de choses à apprendre du côté de Rob. Après, les autres entrepreneurs. J'en connais beaucoup, mais certains qui sont déjà, on va dire, bien avancés dans leurs étapes, qu'on fait pas mal de podcasts. D'autres entrepreneurs, non, du côté d'Imagination Machine, il y a pas mal d'entrepreneurs assez sympas à découvrir. Je pense notamment au Mini Monde. Je pense à il était plusieurs fois. Ouais, il était plusieurs fois, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est ceux qui me viennent un petit peu à l'esprit. Je présente pas non plus Antoine et Johan de Shopopop, avec qui on a démarré ensemble d'ailleurs, hein, au tout début. Donc ça, c'est... Ouais, au tout début. Tout début, on a commencé avec Shopopop. Donc ça, c'est assez drôle. Non, mais écoute, Rob, je pense que ce sera un podcast super sympa avec Rob.
Super. Bah, merci pour ta reco. Merci pour cet échange, Reynald. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans le Grand Ouest, à commander sur Vite Mon Marché.
Bah, écoute, c'est super sympa. Et puis, voilà, si on peut échanger sur notre expérience, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent être entrepreneurs. On voit le succès, hein, des salons des entrepreneurs, notamment à Nantes, où j'avais fait une conférence là-bas, un témoignage, et voilà. Mais je pense qu'en fait, tout le monde veut être entrepreneur, mais parce que chacun a envie, on va dire, de vivre de sa passion, envie d'être libre, on va dire, entre guillemets, et c'est quelque chose qui est tout simplement, on va dire, humain et naturel. Après, c'est comment faire, on va dire, pour se lancer, quand est-ce que c'est le bon moment pour se lancer. Et ça, c'est vraiment une réponse personnelle.
C'est clair. Bah, je te remercie, Reynald. Ce sera le mot de la fin.
Merci beaucoup.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.